France Inter, le 18-20.
Donc à la SNCF, c'est parti jusqu'au 28 juin à raison de 2 jours tous les 5 jours. La raison, on la connaît et on y reviendra bien sûr dans le détail si vous le souhaitez. La réforme du rail voulue par le gouvernement. Dans le même temps, aujourd'hui aussi, Air France débraye cette fois pour des questions de salaire. Une seule journée, mais c'est la 4e en un mois. Les éboueurs en grève illimitée, plus resserrés dans certaines grandes villes. Ils veulent un service public national des déchets et que soit mieux reconnue la pénibilité de leur travail. C'est un service public de l'électricité et du gaz que demandent les grévistes du secteur de l'énergie. Et puis les facs, là encore concentrés, Montpellier, Toulouse, Paris pour l'instant. Et là, c'est la sélection avant l'université qui est le thème du jour. La convergence, elle arrive très rarement, mais il suffit parfois d'un empilement pour donner un effet de masse. Et la question qu'on pose ce soir, c'est: sommes-nous à un stade où la fronde sociale contre Emmanuel Macron est en marche? Est-ce que la contestation dans la rue qui a échoué lors des ordonnances de la loi travail partira en ce printemps emmenée par les cheminots et peut-être les étudiants, emmenée aussi par quel syndicat? Est-ce que pour qu'un mouvement prenne, il doit aussi avoir un agent fédérateur? Les syndicats sont-ils suffisamment unis pour ça? Les mouvements de grève feront-ils le printemps? C'est à vous de nous le dire ce soir.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et Françoise, c'est vous la première. Soyez la bienvenue au téléphone sonne. Françoise, on vous écoute.
Oh ben, je suis très fière, mais c'est tellement difficile de vous joindre. Je vous remercie pour toutes vos émissions. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis une dame de 72 ans qui a commencé à travailler en 1966. Je voulais tout d'abord vous dire que je suis à fond pour cette grève des cheminots qui trace la route de la défense des services publics. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais très jeune, j'avais 2 semaines de congés par an et je travaillais 45 heures par semaine. Tout cela, nous l'avons gagné. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons gagné. Et défendre nos services publics, c'est défendre notre patrimoine national, c'est défendre notre patrimoine social, c'est défendre la France, messieurs et mesdames. Parce que les services publics à la française, ce sont nos protections. Et tous ceux qui n'ont jamais lutté pour ces protections ne savent pas ce que cela veut dire. Je voulais vous dire simplement que moi, je soutiens les cheminots, je soutiens tous ceux qui sont en train de défendre les EHPAD, les hôpitaux, les fonctionnaires, tous ceux qui font que la France soit la France. Voilà, messieurs, je vous souhaite le bonsoir.
Eh ben, merci beaucoup, Françoise. Attendez, restez juste une petite seconde. J'imagine que vous avez déjà manifesté de nombreuses fois dans votre vie, Françoise.
Oui, monsieur. Oui, madame.
Qu'est-ce que vous faisiez? Dites-moi juste ce que vous faisiez dans la vie quand vous travailliez encore.
J'étais, la première fois, j'ai été assistante juridique dans une société financière.
D'accord.
Après un licenciement, je suis devenue conseillère à la NPE. Je sais ce que servir veut dire et je sais ce que servir veut dire pour nous tous. Nous avons tous besoin de ces services. Nous, les vieux, les jeunes, les anciens, nous avons besoin de nos services. C'est ça la France.
Merci beaucoup Françoise pour cette entrée en matière du téléphone sonne ce soir jusqu'à 20h pour, j'allais dire, répondre à votre question. Non, il n'y a pas de question, mais pour commencer à discuter autour de ce thème-là et répondre à ce que vous disiez, Françoise, également. Roxane Lundy est avec nous, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Étudiante à Nanterre, vous êtes présidente du MJS, vous venez de rejoindre le mouvement Génération de Benoît Hamon. Bonsoir Éric Bénel.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Et puis Stéphane Sirot, bonsoir Monsieur Sirot.
Bonsoir.
Est avec nous en duplex de France Bleu Nord à Lille. On les remercie au passage, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire, de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Éric Bénel, je vais commencer avec vous. Alors j'imagine qu'un témoignage comme celui de Françoise, c'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur, je peux l'imaginer. Qu'est-ce qui rejoint, qu'est-ce qui regroupe? C'est quoi le fil rouge et le dénominateur commun de cette journée d'aujourd'hui, selon vous? Est-ce qu'il y en a un?
Non. Pour l'instant, il n'y a pas de fil rouge. Il y a depuis plusieurs semaines une série de mobilisations qui s'inscrivent dans le paysage. Vous en avez dressé rapidement quelques-unes, oublié quand même quelques-unes qui me semblent importantes et pas habituelles. Je pense par exemple à celle des retraités le 15 mars. C'est très rare qu'il y ait
autant. J'ai fait celle d'aujourd'hui seulement. Il y a eu les retraités, il y a eu les EHPAD.
Voilà, les EHPAD.
Il y a eu les avocats.
Il y a eu la justice, oui, et pas que les avocats. Il y avait aussi les magistrats, il y avait aussi les personnels de la justice. Il y a aussi dans un certain nombre de secteurs, je pense par exemple à la Poste, où il y a en plus une répression anti-syndicale assez féroce, des mobilisations qui durent depuis très longtemps. À Rennes, depuis presque 2 mois en grève. Sur Bordeaux, depuis quasiment 3 semaines maintenant. Donc on a dans le paysage une série de mobilisations qui sont en train de s'inscrire, avec une symbolique. Voulu aussi par le gouvernement, puisqu'il y a manifestement une volonté d'affrontement avec la SNCF et les cheminots de la part du président et du gouvernement. Et cette mobilisation d'aujourd'hui est toujours emblématique.
Mais est-ce qu'il faudra un moment un fil rouge ou pas pour revenir à ça? Pas aujourd'hui, pas en ce moment, mais est-ce qu'il faudra un moment un fil rouge entre ces mouvements ou pas pour que ça prenne? S'il faut que ça prenne, je sais pas.
Il y a plusieurs dénominateurs communs. Un des dénominateurs importants, c'est le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, parce que d'un côté, on voit un accroissement extrêmement important des richesses, avec encore cette année des dividendes extrêmement importants, des cadeaux qui ont été faits aux riches, avec l'ISF. Et puis de l'autre côté, une augmentation de la CSG qui touche des gens souvent modestes. Une attaque frontale sur l'ensemble des services publics. Les services publics, c'est pas seulement, comme le disait cette dame, c'est pas seulement ceux qui y travaillent, qui y trouvent leur compte, c'est aussi toute la population, c'est ce qui fait société, c'est ce qui fait sens dans la société, et tout ça, c'est un premier fil rouge. Une injustice, c'est l'impression que on essaye de s'attaquer à ce qui fait notre société, notre vie en commun.
Roxane Lundy, il y a eu quelques étudiants dans les cortèges cheminots, aujourd'hui pas beaucoup encore, un petit peu seulement. Est-ce que vous sentez monter quelque chose réellement, ou, comme je le disais à l'instant, il va falloir trouver un dénominateur commun?
Je pense sincèrement que le fil rouge existe déjà. Le fil rouge aujourd'hui, c'est la politique profondément injuste, comme ça a été dit, du gouvernement avec une politique néolibérale.
Mais ça existait avant, pardon de vous interrompre Roxane Lundy, mais c'était le cas aussi, et c'était le même discours au moment des ordonnances, au moment d'autres mouvements. Donc pourquoi là, plus qu'au moment des ordonnances par exemple?
Parce que ça y est, les conséquences se font sentir. Ça y est, les salariés de Carrefour sont en train de vivre des plans sociaux absolument atroces. Ça y est, les retraités sont en train de vivre ce qu'implique en tout cas la hausse de la CSG. Ça y est, les jeunes viennent de passer en tout cas face à Parcoursup, ce qui est un véritable casse-tête pour toutes les lycéennes et tous les lycéens qui sont en train de vivre cette étape. Et sont confrontés très manifestement et très clairement et très concrètement à ce qu'est la réalité de la politique du gouvernement. Donc ça y est, on a eu en effet des mobilisations d'ampleur qui sont en train de prendre dans l'ensemble des facs en France, pas seulement à Montpellier comme ça a été cité, mais c'est partout en France que la colère gronde.
Montpellier, Toulouse, Paris très principalement.
Très principalement,
qui a repris le travail partiellement aujourd'hui.
Nancy, Paris 8...
Bien sûr, toutes les facultés sont en train de se mobiliser et les jeunes aujourd'hui manifestent aux côtés des cheminots pour dire qu'en effet, c'est la même politique qu'ils dénoncent. Celle d'une politique injuste, d'une politique néolibérale qui creuse les inégalités et qui est en train d'entraver notre avenir.
Et pour finir ce tour de table, Stéphane Sirot, vous, avec votre œil d'historien et de chercheur, est-ce que vous voyez se passer quelque chose en ce printemps-là, ou vous vous dites il est bien trop tôt pour pouvoir avoir une idée de ce genre?
Moi, je pense qu'en effet, il se passe quelque chose, et la séquence a été ouverte, à mon sens, par la mobilisation des gardiens de prison. J'y reviendrai un instant. Mais pour reprendre la question que vous posiez, c'est-à-dire celle des fils rouges, je pense justement qu'il y en a de nombreux et de très forts. Alors, certains ont été plus ou moins soulignés à l'instant, la question du ressenti de la politique qui est menée, qui est effectivement considérée de plus en plus comme injuste, et qui renvoie aussi à toute une série de revendications liées notamment au pouvoir d'achat, dans le contexte d'un moment où on nous dit que la croissance serait en train de revenir. Donc naturellement, dans ce type de situation, on voit ressurgir des revendications qu'on appelle dans le mouvement ouvrier classiquement quantitatives. Il y a un deuxième fil rouge qui est le modèle de société, et la dame que vous avez fait intervenir au début le montre très bien. Est-ce qu'on veut une société dans laquelle sont maintenues les solidarités, dans laquelle sont maintenues les protections, où les services publics ont un rôle à jouer, ou est-ce qu'on veut une société dans laquelle les statuts sont dynamités, dans laquelle peut-être ensuite, demain, les conventions collectives le seront également, c'est-à-dire au fond une société ubérisée où chacun créerait son emploi, où chacun serait l'exploiteur de lui-même au profit d'un capitalisme dématérialisé qui n'aurait plus au fond à financer les systèmes de protection du salariat qu'on voudrait aujourd'hui voir plus ou moins disparaître. Donc il y a vraiment, et je pense que ça c'est un des fils rouges forts, une discussion autour du modèle de de société que l'on veut et qui implique un troisième grand fil rouge qui traverse tous ces mouvements, c'est-à-dire d'un côté les injonctions budgétaires, les réformes imposées d'ailleurs très souvent par l'alignement du modèle français sur la politique européenne, qui crée un fossé de plus en plus manifeste entre d'un côté ces politiques restrictives et de l'autre la capacité pour les individus à tout simplement exercer leur profession. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dans les manifestations du 22 mars, lorsqu'étaient interrogés certains manifestants qui disaient, mais finalement, hier, et notamment le secteur de la santé, hier, on revendiquait pour nos salaires, pour nos conditions de travail. Maintenant, on en arrive à revendiquer tout simplement à pouvoir exercer notre métier, parce que ces injonctions que j'évoquais à l'instant, ces restrictions que j'évoquais, elles conduisent à cette situation où les individus qui tout de même s'engagent dans la profession qui est la leur, parce qu'ils ont un certain sens de leur mission, n'arrivent plus à accomplir cette mission-là. Et je pense qu'en effet, on est à un moment, parce que vous demandiez pourquoi maintenant.
Ouais.
Parce
qu'effectivement, je demandais surtout pourquoi ça n'a pas marché pendant la loi travail et ça peut marcher maintenant, en fait.
Ça peut marcher maintenant parce que on a, je dirais, d'abord un effet d'entraînement des mouvements. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure des gardiens de prison. Mmh. Dans le mouvement desquels on voyait d'ailleurs en filigrane les différents fils rouges que je viens d'évoquer et qui finalement ont réussi à obtenir un certain nombre de concessions. Et on sait très bien qu'en matière de mouvement sociaux, l'exemplarité joue un rôle très important, les dynamiques jouent un rôle très important, et c'est la raison pour laquelle il me semble que la séquence qu'on est en train de vivre, et qui n'est sans doute pas prête de se refermer, elle a commencé à ce moment-là. Donc, et en plus, avec un autre élément qui me semble crucial...
Rapidement,
qui
Monsieur Sirot.
Oui, le basculement de l'opinion publique. Parce que, aussi bien en septembre-octobre, au moment des mobilisations contre les ordonnances travail, il y avait encore un relatif soutien, ou en tout cas une attente de l'opinion pour voir ce qu'allait donner la politique gouvernementale. On n'en est plus là dans le contexte aujourd'hui. On a un effritement du pouvoir que montrent les études d'opinion, d'une part, et d'autre part, comme le disait un sondage il y a une dizaine de jours, ce ressenti d'une injustice flagrante, et assumé d'ailleurs par le pouvoir politique, et qui peut-être là d'ailleurs, de sa part, constitue une erreur.
Et on aura l'occasion d'y revenir, et notamment sur un certain nombre de choses que vous venez de dire, Stéphane Sirot, sur le basculement de l'opinion publique. Est-ce que ce jeu opinion publique contre manifestants pourra fonctionner, et pour qui surtout? Je voudrais qu'on écoute Myriam. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir à tous et toutes. Alors, moi, ce que je viens d'entendre me gêne un peu, parce que j'appelais pour justement, à contrario...
Mais vous avez le droit, Myriam, allez-y,
oui,
vous en prie.
Dire qu'à mon avis, on n'était pas encore prêt pour le grand soir, et le fait que les mouvements sociaux et les grèves concernent des revendications assez différentes d'une catégorie à l'autre. Les gens d'Air France veulent une augmentation de 6%, les gens de Carrefour sont sur un plan social et puis la baisse de leur participation, les éboueurs sur la pénibilité de leur travail et une éventuelle augmentation. Enfin, tout ça fait que je pense que c'est une grande chance pour le gouvernement Macron et qu'on n'y a pas pour l'instant une intersyndicale ou interprofession qui fasse que l'on va converger vers un grand mouvement social et malheureusement ce que je regrette, mais voilà, en plus les vacances de Pâques vont arriver, donc les universités, à chaque fois qu'il y a des vacances qui arrivent, ça coupe les mouvements dans les universités, mais peut-être me trompais-je. Toujours est-il que je me dis c'est une grande force pour Macron, parce qu'à la limite il peut traiter ou faire traiter, demander aux gens de Carrefour d'aborder les problèmes avec les salariés de chez Carrefour,
chacun dans son secteur, c'est ce que vous dites, renvoyer chacun. Renvoyer chacun dans son secteur.
Voilà, tout à fait. Et on n'aura pas ce grand mouvement inter. Même si une injustice est ressentie par toutes ces catégories, mais elle ne se situe pas au même niveau. Les gardiens de prison, c'était les gardiens de prison pour certaines choses. Regardez, il y a quelques mois, il y a eu ces femmes de ménage des Holiday Inn. Tout le monde s'en tapait le coquillard.
Pas du tout.
Parce que c'était
pas du tout, répond Éric Bénel, pour l'Union syndicale solidaire.
Et pas que Holiday Inn, il y avait Honnête aussi, quelques temps avant la guerre du Nord.
Et peu de gens s'y intéressaient ou étaient au courant, et ça, voilà.
Merci beaucoup, Myriam.
Même s'il y a eu des avancées, et si elles ont eu des satisfactions, parce que certains syndicats les ont beaucoup aidés.
Merci beaucoup pour votre intervention, Myriam. Et Éric Bénel, est-ce que c'est grave, est-ce que ça change quelque chose, que ce soit pas une convergence, mais une accumulation? Si on s'empile, est-ce que c'est pareil que si on est ensemble, en fait, dans le même cortège?
Oui, c'est...
Parce que je reviens sur ce que disait à l'instant Myriam sur le fait que chacun a ses revendications dans son coin et donc sera poussé à aller les régler chacun dans son coin. Donc si on s'empile, ça a autant de poids que si on est ensemble ou pas ?
Si on s'empile, si on s'interconnecte, si on fait les choses les unes après les autres, je pense pas qu'il y ait... Il n'y a pas de vocation des organisations syndicales interprofessionnelles à appeler de manière systématique à une convergence qui n'aurait pas forcément de sens. Il y a des mouvements qui existent. Il faut déjà qu'ils puissent se développer et se construire. Là, on en est au tout début de la grève à la SNCF. Elle est programmée au minimum pour 3 mois avec une temporalité. Elle est dès le premier jour.
La Sud parle d'illimité d'ailleurs. Voudrait aller un peu plus loin que ce que dit la CGT.
C'est ce qui va être débattu dans les assemblées générales. Il y a différentes stratégies qui existent et comme toujours chez les cheminots, c'est les assemblées générales qui décideront de la temporalité. Dans ce débat démocratique et on verra après comment les choses évoluent. Mais ce qui est vraiment important, c'est le taux de grévistes qui est extrêmement important. 90% des contrôleuses et contrôleurs, 77% des conductrices et conducteurs. Donc c'est un taux extrêmement conséquent. On l'a vu dans le nombre de trains qui ne circulaient pas aujourd'hui. Donc il faut déjà que ces grèves s'installent. Et il faut après qu'elles puissent faire le lien avec d'autres mouvements, comme cet après-midi. Moi, j'étais à la manif parisienne qui est partie de la gare de l'Est jusqu'à la gare Saint-Lazare.
C'était pas très nombreux, honnêtement.
Non, mais c'était...
300 personnes, 400 personnes.
Plus que 300, 500, plus que 400. Après, bon, on compte toujours différemment, nous les syndicalistes et Paris.
Oui,
nous
là.
Mais après,
mais bon, globalement, il n'y avait pas un millier de personnes. Alors l'idée, c'est pas de...
Oui, en tout cas, c'était une manif appelée par Sudrail, avec l'idée de réunir un petit peu les militantes et militants des différentes gares. Mais ce qui était bien et intéressant, c'est qu'il y avait des gens du commerce, il y avait des gens de la poste, il y avait des gens des hôpitaux. Enfin voilà, il y avait des étudiants qui étaient venus de Paris 4 et de Paris 8. Voilà, tout ça se parlait. Et déjà, il faut commencer à se parler. Nous, on a appelé, par exemple, à nos militantes et nos militants à se rendre dans les AG cheminotes pour apporter leur soutien et à aller là où il y a des batailles qui existent déjà pour apporter le soutien. La solidarité, c'est déjà un premier acte essentiel.
En parlant de se parler, Roxane Lundy, est-ce qu'il faut continuer à négocier ? Puisque l'idée, c'est celui d'un bras de fer, on a bien compris que l'idée, c'était à celui qui céderait le premier. Faut-il continuer à négocier en ce moment ou pas ?
Bien sûr.
Au sens large, les cheminots, les étudiants et d'autres aussi, c'est plutôt à la militante de génération que je m'adresse là, est-ce qu'il faut négocier ?
Bien sûr qu'il faut continuer le bras de fer, bien sûr qu'il faut continuer la mobilisation. Aujourd'hui, on voit bien que donc il y a différents mouvements, voilà, de grèves, de protestations, de contestations qui émergent avec des revendications différentes.
Mais négocier avec le gouvernement.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'on va toujours aux négociations ?
Bien sûr qu'il faut aller négocier avec le gouvernement, parce que là la question c'est celle du projet et du modèle de société que nous portons et que nous défendons. Il faut continuer à montrer que la jeunesse n'aspire pas à l'avenir qui est en train de nous proposer le gouvernement. Il faut montrer que les travailleurs et les travailleuses, quel que soit l'endroit où ils travaillent, en particulier dans le service public, ne veulent pas du projet de société qui est aujourd'hui celui que propose le gouvernement.
Mais pardonnez-moi, négocier le service public, que ce soit celui de la SNCF, des gaziers, etc., tout ça c'est extrêmement large. Là, très concrètement, par exemple, on vous reposera la question, Éric Bénel, sur la grève SNCF, est-ce qu'on reprend à zéro avec une feuille blanche ? Sur la sélection ou pas l'entrée de la fac, est-ce qu'on reprend à zéro avec une feuille blanche ? On la prend où cette négociation ?
Je pense en effet que le problème, c'est l'orientation même de ces réformes. Donc aujourd'hui, les négociations vont se faire sur un certain nombre de points, mais il faut refuser en bloc l'orientation même de ces réformes. Quand on parle de l'université, aujourd'hui, ce qui est nous proposé, c'est un modèle néoconservateur, élitiste, qui va proposer la sélection à l'université, qui va renforcer les inégalités, les phénomènes d'autocensure dans les facs quand il s'agit des lycéennes et des lycéens et des étudiants de manière plus globale, et l'orientation globale est celle...
Le système n'était pas très égalitaire non plus.
Il n'était pas égalitaire, et d'ailleurs, on se bat à génération pour qu'il y ait une véritable révolution pédagogique, pour qu'on puisse porter justement un nouveau modèle éducatif qui permette de mettre le droit à l'éducation au cœur de nos revendications. Aujourd'hui, la réforme Parcoursup, la réforme de la sélection à l'université sont des réformes qui vont dans le mauvais sens. Ça, c'est évident. Comme c'est le cas pour les cheminots, comme c'est le cas pour la suppression des 120 000 postes dans la fonction publique, alors qu'on manque d'écoles qui sont en train de fermer dans les milieux ruraux, alors que les conditions dans les EHPAD sont dramatiques. Aujourd'hui, c'est ce que fait Génération, c'est proposer un autre modèle de société, une autre orientation.
Mais donc,
pour autant, le bras de fer doit continuer.
Voilà, pardon de poser la question, à quoi ça sert de négocier sur un texte dont vous voulez de toute façon qu'on fasse table rase au final ?
C'est ça la négociation. négociation. La négociation aujourd'hui, c'est de dire que nous n'acceptons pas qu'on nous impose cet avenir, que nous ne voulons pas, que nous refusons. Donc la négociation, elle part d'un bras de fer. Nous sommes dans la rue pour nous mobiliser, pour montrer que nous sommes en désaccord avec les politiques qui sont prises et nous continuerons à le faire parce que c'est essentiel. Et dans le même temps, la militante politique que je suis et l'ensemble des militantes et des militants politiques à Génération se battent pour apporter des débouchés politiques, pour proposer autre chose, pour montrer que non seulement on résiste, on s'oppose à la politique du gouvernement, mais qu'en plus on bâtit un avenir, un meilleur avenir.
Éric Bénel, est-ce que la CGT veut repartir sur une feuille blanche? La CFDT dit qu'il faut discuter. Chez Solidaires, on dit quoi?
On dit
feuille blanche aussi, on recommence à zéro?
On dit qu'on n'a pas pris les choses dans le bon sens. On a un service public de la SNCF qui, et là tout le monde est d'accord sur ce plan, ne fonctionne pas. Et on le dit pas depuis seulement quelques semaines. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit. Je rappelle, par exemple, que les syndicats à la SNCF s'étaient battus contre la division qui a été faite entre RFF, la SNCF, etc., en disant que ça allait conduire à une catastrophe. C'est un des rares points d'accord avec le projet du gouvernement, c'est-à-dire qu'on réunifie les choses. Il n'est que temps. Donc non, pas la feuille blanche. Il y a au moins ce point-là qui fait consensus. Mais après, la vraie question, c'est comment on développe et on construit un réel service public. Comment on fait pour que les gares soient encore ouvertes? Il y a un tas de communes qui ont des gares qui ne sont ouvertes que quelques heures par jour. Il y a plein de voies qui ne sont plus entretenues. Ça, c'est la vraie question. Et comment on forme et on continue à avoir des cheminots bien formés? Là, chaque moment, quand il y a des recrutements qui sont faits à la SNCF, alors que soi-disant c'est un endroit avec des grands privilèges, il y a les plus grandes difficultés pour recruter des gens à la SNCF au jour d'aujourd'hui. De recruter des conducteurs, c'est aujourd'hui très compliqué. C'est bien que les conditions de travail, les conditions de salaire et les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes. Donc il faut aussi les améliorer de ce côté-là.
Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Et soyez le bienvenu Pierre, on vous écoute.
Bien, merci. Alors moi je pense qu'une convergence, c'est quand il y a une organisation, une pensée, il y a des leaders. Et je pense que, au contraire donc de la dame précédente, je pense que ce mouvement peut aller très loin. Il peut aller très loin pour deux grandes raisons. Tout d'abord, je pense que l'imposture donc de Macron tombe. Il n'est pas et de droite et de gauche, il est de droite libérale. Je crois que les gens s'en rendent compte. Et je dois dire une toute petite parenthèse, qu'hier j'ai été consterné par les propos de la vice-présidente donc des Républicains, qui est passé sur France Inter à 7h50, je crois, en disant que Macron et son gouvernement étaient de gauche. Mais si elle n'a pas compris que c'est vraiment la droite qui gouverne la France, le libéralisme...
Elle est un peu dans son rôle, vraisemblablement, mais c'est pas grave.
Justement, je pense que ce flottement qu'il y a eu dans une opinion publique pendant quelques mois, c'est que les gens, ils attendaient, ils disaient, tiens, pourquoi pas une mixture entre droite et gauche. On se rend bien compte que tout ça, c'est une imposture totale, et que c'est la droite libérale qui gouverne la France. Après... Je pense qu'il y a donc finalement une nouvelle société. Je pense que les gens, ils attendent moins de grands leaders, de grands chefs politiques, etc. Et qu'il peut y avoir une convergence, donc non pas dans une organisation, mais dans un grand rassemblement de luttes, même si elles sont diverses, même si a priori elles n'ont pas, ou elles ne semblent pas avoir un lien entre elles, elles contestent une politique libérale, néolibérale, et qui finalement attaque le service public et les petites gens. Et je pense que c'est en ce sens-là que le mouvement, il peut réussir. Il peut avoir des millions de gens qui vont défiler, qui vont faire grève. Alors, pas pour les autres, mais pour eux. Et finalement, un assemblage de tous ces mouvements peut faire chuter le gouvernement de droite libérale qui gouverne la France.
Merci beaucoup pour ces remarques, Pierre. C'est à vous que je m'adresse, Stéphane Sirot. Je reviens sur ce que disait Pierre à l'instant sur l'idée d'un leader ou pas. Faut-il un mouvement comme celui-là? Faut-il un moment qu'il y ait non pas un leader, mais en tout cas un front, on va dire? Et est-ce qu'il existe, selon vous, là, un front syndical qui permet d'avancer ou pas?
Un front syndical, de toute évidence, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais je dirais que l'unité syndicale, ça peut être bien sûr un outil utile dans les mobilisations, certes. En même temps, ça n'est pas non plus une obligation. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire récente, le dernier grand mouvement du monde du travail, si on met entre parenthèses la lutte contre le CPE, qui était quand même avant tout un mouvement de jeunesse, le dernier grand mouvement vainqueur, c'est celui de novembre-décembre 1995, qui, rappelez-vous, s'est fait dans la plus grande désunion. La fracture était ouverte entre la CGT, CGT, Force ouvrière d'une part, et la CFDT d'autre part. Mais au-delà de ça, ce qui me semble important pour envisager effectivement cette fameuse convergence des luttes, au-delà du fait, encore une fois, et au fond, c'est dit par vos auditeurs, à chaque fois qu'ils interviennent, eux-mêmes, je dirais, spontanément, font bien ressortir, et notamment le dernier auditeur, les fils rouges, ou le fil rouge qui traverse toutes ces mobilisations et que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a un certain nombre de circonstances qui peuvent être utiles, voire nécessaires, pour engendrer cette fameuse convergence des luttes, et qui sont aujourd'hui compliquées. Effectivement, il me semble que un ou des chefs d'orchestre confédéraux suffisamment charismatiques, certes, mais aussi en capacité d'offrir une perspective claire, une ligne politique, au fond, hein, même si c'est du syndicalisme, une ligne politique au sens quelle orientation de la société on veut, ça, c'est quelque chose qui est indispensable, qui est nécessaire, et qui me semble aujourd'hui en partie manqué. Il y a un autre élément qui est utile, voire indispensable, c'est l'articulation entre les mobilisations sociales et le champ politique. Ce qui rend aussi souvent efficaces les grands mouvements sociaux, c'est qu'à un moment donné, cette articulation entre champ social, champ politique, s'est faite. Voilà. Mmh. Et que cette mobilisation sociale pouvait trouver à un moment donné une forme de relais dans l'ordre institutionnel.
Il manque le relais politique. Est-ce que vous pensez qu'il... Stéphane Siro, il manque le relais politique aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe ce relais politique ?
Il manque au sens où la dernière élection présidentielle, tout le monde le constate aisément, a laissé quand même un champ de ruines politiques derrière lui, et notamment à gauche, puisque je dirais c'est naturellement la gauche qui peut porter.
Pas la gauche d'Éric Bénel, mais la gauche aussi, oui.
Oui, or, à gauche, on voit bien que la situation n'est pas vraiment florissante, et puis que d'autre part, il y a aussi une lutte pour l'hégémonie entre les différentes organisations qui se reconstitue, donc ça crée pas forcément une situation qui est très propice à cette articulation que j'évoquais. Et puis après trois décennies de politique libérale, pas forcément seulement d'ailleurs de droite, mais social-démocrate aussi, on aboutit à une société dans laquelle il y a une fragmentation du salariat qui est extrêmement poussé aujourd'hui, et qui donne parfois l'impression qu'effectivement chacun lutte dans son coin pour ses propres revendications, alors même qu'il y a encore une fois toute une série d'éléments structurels qui sont des éléments communs.
Un mot pour vous, Roxane Landy, avant qu'on retourne au standard. Effectivement, est-ce qu'il reste, qui peut ramasser le champ politique dont parlait à l'instant Stéphane Siro, une fois que le champ syndical est passé ?
C'est tout l'intérêt aujourd'hui aussi de la dynamique qui est en train d'émerger.
C'est tout le problème peut-être.
Et tout le problème, tout l'intérêt, tout le problème de cette dynamique qui est en train d'émerger, bien sûr, c'est que après un quinquennat de reniement idéologique, faut le dire, la gauche a laissé malheureusement derrière elle aussi un champ de ruines. Malheureusement pour Macron, il se croyait fort parce que nous étions à genoux et nous sommes en train de nous relever. La gauche est en train de se reconstruire et donc partout en France aujourd'hui, la gauche se rassemble pour la solidarité
vis-à-vis des cheminots. Parce qu'on ne voit pas bien la bannière.
Eh bien, aujourd'hui, pour dénoncer les conditions des cheminots et la réforme ferroviaire qui nous est proposée, l'ensemble des forces de gauche, qui vont bien sûr avec la France Insoumise, Génération, qui était extrêmement présent, qui s'est mobilisée, mais l'ensemble des forces de gauche ont été manifestées et aujourd'hui disent leur solidarité envers les cheminots. Ça, c'est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, Macron est en effet en train de faire tomber l'imposture, hein, comme le disait très justement l'auditeur. L'imposture Macron est en train de tomber. Il nous avait promis un peu d'égalité et un peu de liberté. Il nous offre moins des deux. Et la politique est en train aujourd'hui de se reconstruire à gauche pour permettre d'apporter des débouchés aux revendications qui sont portées. Et c'est essentiel.
La reconstruction à gauche, on a vu par exemple, alors il y a Génération effectivement que vous représentez, on a vu que l'élection du secrétaire général du Parti Socialiste n'avait pas non plus complètement transcendé les foules, très honnêtement. Roxane Landy, c'est difficile de repartir.
Bien sûr que c'est difficile après le précédent quinquennat. Pour autant, on est mobilisé. Et toutes les manifestations qui sont en train d'émerger dans la société, c'est aussi ça la gauche. C'est la société engagée, c'est l'ensemble du peuple de gauche qui se soulève et qui dit qu'en fait, il en a marre des politiques qui sont proposées par le gouvernement. Et donc notre objectif aujourd'hui à Génération, c'est d'apporter des débouchés politiques. Et nous sommes mobilisés pour dénoncer le sort dans les EHPAD, la situation dans les hôpitaux, le sort des cheminots bien sûr, et la sélection à la fac qui aujourd'hui va complètement dans le mauvais sens.
Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, Marc, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Bon, je précise que ça va peut-être un peu surprendre les gens qui vont m'entendre. Je suis un homme de gauche.
Ne vous excusez pas, Marc.
Non, je ne m'excuse pas, mais je suis un homme très réaliste.
Allez-y.
Et je regarde passer donc les conflits sociaux depuis fort longtemps, et je constate simplement une chose, c'est que la France semble totalement incapable, à l'instar, enfin à la différence de l'Allemagne, par exemple, de résoudre ces conflits sociaux par la négociation. Alors, on va dire c'est la faute du gouvernement, on va dire c'est la faute des syndicats, on va dire c'est la faute de ci, de ça, etc. Comment se fait-il qu'un pays comme la France, qui finalement donc devient finalement la risée de pays, je prends par exemple la Chine, on représente, il faut savoir qu'on représente 0,9% de la population mondiale, que finalement si on ne se réforme pas en profondeur, en maintenant le service public, en le maintenant rénové, c'est-à-dire orienté peut-être vers ce troisième millénaire. Je suis conscient des problématiques qu'il y a. Un éboueur qui gagne 900 euros par mois, c'est pas tolérable. Les problèmes dans les EHPAD sont pas tolérables, je suis d'accord. Mais pourquoi ne peut-on pas se mettre autour d'une table et éviter justement cette épreuve de force qui coûte tellement cher au pays? Parce que ça va nous coûter horriblement cher. Imaginez ce que représente 3 mois de grève. Ce que ça va représenter, c'est pas Macron qu'on va mettre à genoux, c'est le pays.
Éric Bénel, on ne sait pas négocier en France. On donne toujours l'exemple de l'Allemagne, alors qui sait faire grève quand ils font grève. On l'a vu très récemment avec IG Metall, oui. Quand il faut descendre dans la rue, ils savent le faire. Mais avant, il y a toute une part de négociation qui n'existe pas chez nous. C'est le jeu, en fait, c'est dans la rue que les choses se jouent, c'est au bras de fer que ça se joue, forcément.
Je pense que c'est une vision extrêmement réductrice de la réalité de ce qui se passe dans le pays tout au long du temps. Nos équipes syndicales dans tout un tas de secteurs négocient régulièrement. Mais la négociation, à un moment, parfois, elle a besoin pour pouvoir avoir des débouchés et aboutir, d'avoir un rapport de force. Et ce rapport de force, il se constitue de différentes manières. Il y a parfois des pétitions, le soutien de la population, des journées de grève ou de manifestation. Et puis, il y a des mouvements importants.
C'est vrai qu'il a raison, Marc, on y est vite dans la rue, cela dit. On y est rapidement,
on
n'y
est pas si rapidement que ça. Puisque, par exemple, le rapport Spinetta, il a été rendu public il y a déjà plus d'un mois. Il y a eu des discussions qui ont été engagées avec le gouvernement auxquelles ont participé les organisations syndicales. Sauf qu'elles ne se sont pas faites dans une réelle franchise de la part du gouvernement. D'abord, il a influencé grandement le rapport Spinetta.
Mais c'est ça l'idée, c'est zéro confiance, quoi qu'il en soit. Et on parle en ce moment avec Macron, mais c'était pareil dans les quinquennats précédents, en fait. On est dans un rapport de zéro confiance, quoi qu'il arrive, en fait.
On n'est pas dans un rapport de zéro confiance. Lorsqu'il y a des projets qui sont menés de manière utile, on les suit, on les prend, etc. Sauf que là, au cas particulier, comme ça a été dit tout à l'heure par Stéphane Sirot, on est dans un système qui depuis, alors il disait 30 ans, mais c'est largement plus de 30 ans, depuis ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur à l'époque de François Mitterrand, on est dans un système où on conduit des politiques libérales et où l'idée même de progrès social a complètement disparu. Si on était autour de la table pour construire du progrès social, ben là, la confiance, elle pourrait se faire. Là, au cas particulier, les négociations, elles sont toujours sur le pire, jamais sur le meilleur.
Je voudrais qu'on écoute Patrick. Bonsoir, Patrick.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, soyez le bienvenu sur Inter, Patrick, on vous écoute.
Merci. Oui, alors moi, je vais être un peu comme Marc, je vais dire que je suis un homme de gauche, et je vais être peut-être le vilain petit canard dans cette émission et dans le consensus de cette émission, mais je me demande si, comme le Nouveau Monde qui a balayé les anciens partis politiques traditionnels qui étaient complètement dépassés, ce type de contestation aujourd'hui n'est pas complètement dépassé. Si les problèmes de la SNCF sont vraiment et bien réels, on ne peut pas en douter. Je me demande si en fait les salariés de la SNCF n'auraient pas plus obtenu en négociant, plutôt qu'en descendant dans la rue, car on sait que Macron n'a pas peur du conflit, et je ne pense pas qu'ils obtiendront beaucoup dans la rue. Voilà ma question.
Merci beaucoup pour cette question, Patrick. Je crois que j'ai oublié votre prénom, Patrick, je crois. Stéphane Sirot, est-ce qu'il y a une forme de, allez, je vais le dire comme ça, d'archaïsme, en fait, quand on descend dans la rue et qu'on manifeste et qu'on fait grève?
Alors d'abord, je dirais que pour négocier, il faut être plusieurs. Et vous l'avez peut-être remarqué, dans la bouche des ministres, on entend souvent le mot concertation, on n'entend jamais ou quasiment jamais le mot négociation. Parce qu'il me semble qu'on est aujourd'hui plus que jamais dans une forme de gouvernement des experts. Mmh. Et ça, ça pose un vrai problème politique, parce que le gouvernement des experts, ça veut dire le gouvernement de ceux qui savent avant tout le monde et mieux que tout le monde.
Concerter, ça veut dire qu'en fait on négocie pas si ce n'est à la marge, c'est ça que ça veut dire selon vous, la différence entre...
Ça veut dire ça, et ça veut dire qu'au final, on fait plus de la technique que de la politique. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? Et c'est là où j'en viens à rebondir, comme on dit de nos jours, sur ce qu'ont dit vos auditeurs. Quand on fait de la politique et quand on est en démocratie, c'est tout simplement la démocratie, l'orchestration des contradictions et la liberté pour chacune de ces contradictions de s'exprimer. Et à partir de l'expression de ces contradictions, de laisser place ensuite, effectivement, à une porte de sortie qui puisse rassembler, on va dire, le plus grand nombre. On n'est pas aujourd'hui dans ce cadre-là. Par ailleurs, il ne faut pas non plus laisser penser qu'on est dans un pays qui serait constamment en train de protester. Il faut peut-être rappeler tout de même un petit détail. Il y a 40 ans ou 45 ans, on signait quelques centaines d'accords dans les entreprises en France. Aujourd'hui, on en signe chaque année entre 35 et 40 000. La négociation, elle existe et elle est d'ailleurs d'autant plus vive dans les entreprises, nous dit le ministère du Travail, où il y a également de la conflictualité. Donc l'un ne s'oppose pas à l'autre. Voilà, c'est ça la vie démocratique. Donc, il faut arrêter aussi, je pense, de constamment mettre en avant ce qui serait l'archaïsme de la manifestation ou de la grève, c'est-à-dire, au fond, la liberté pour les contre-pouvoirs de s'exprimer, et de l'autre, la modernité qui serait celle du consensus. Le consensus, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé dans l'histoire, et qui n'est pas prêt d'exister, me semble-t-il.
Il nous reste à peine 3 minutes, et je voudrais qu'on écoute Pascal, qui attend depuis 35 minutes. Pascal, pardon de vous avoir fait patienter aussi longtemps. On vous écoute, allez-y.
Non, mais je vous en prie, merci. Non, moi, je voulais intervenir, en effet, sur expliquer un peu, je travaille en ce moment sur les 50 ans de mai 68, et sans vouloir faire un parallèle, mais dire que en 68, ils étaient aussi confrontés à un gouvernement, bon, à l'époque gaulliste, mais qui était vraiment un mur de résistance face aux besoins des salariés à entendre les revendications de l'époque. Et aujourd'hui, on est aussi face à un mur de résistance qui est le président Macron et son gouvernement. On voit un peu ce qu'il veut faire sur la SNCF. Finalement, terminer le débat, s'il y a débat, ce que l'on peut douter aujourd'hui sur des ordonnances, c'était aussi ce qui se passait en 68. Enfin, quand en 67, ils ont cassé la sécurité sociale à ce moment-là par des ordonnances. Il y a une similitude, à mon sens. On ne peut pas parler, évidemment, qu'aujourd'hui sera 68, ce sera sans doute un autre mouvement. Mais je pense qu'il faut réussir à fédérer les revendications de l'ensemble des salariés. Réexpliquer, peut-être redire tout l'intérêt d'avoir un service public ferroviaire pour l'environnement, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire.
Je vois ce que vous voulez dire. Et ce qu'on entendra évidemment encore, j'imagine, jusqu'au 28 juin, de réexpliquer ce que c'est que le service public. Roxane Lundy, vous qui êtes la plus jeune autour de la table, quand on entend les parallèles avec 68, qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Je pense que c'est très vrai. Je pense en effet que là, c'est un ras-le-bol général de celles et ceux qui galèrent, de celles et ceux qui se battent pour les services publics, parce que le service public, c'est quand même le patrimoine commun que nous avons toutes et tous, y compris que nous ayons beaucoup d'argent ou que nous n'en ayons pas beaucoup. Je pense en effet que aujourd'hui, le projet de société qui nous est proposé n'est pas celui auquel la jeunesse aspire. La jeunesse n'a pas été consultée sur le service national obligatoire, ni sur la sélection à l'université. Le nouveau monde, c'est pas celui qui se résigne, c'est celui qui va chercher l'idéal. On est en plein dedans.
Allez, un dernier mot pour l'historien Stéphane Sirot sur le parallèle avec 68. Vous prenez, vous jetez ou pas?
Vous prenez un peu, vous jetez un peu. On peut toujours faire des comparaisons. En revanche, aucune situation n'est identique aux précédentes. Au contraire, l'histoire, ça sert plutôt à faire valoir ce qu'il y a de différent entre une époque et celle qui précède. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas y avoir de nos jours de grands mouvements sociaux.
Merci beaucoup, merci à tous, merci de votre présence dans le Téléphone Sonne ce soir. Merci aux nombreuses questions qui sont venues encore une fois au 01 45 24 7000. On se retrouve demain, portez-vous bien.